Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Mouamadou Oumfa. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur les répercussions du conflit russo-ukrainien dans le Sahel. Après la mort de plusieurs soldats maliens et éléments de l'Africa Corps russe, ex-Wagner, tués par des rebelles du nord du Mali dans la nuit du 27 au 28 juillet 2024 à Tinzawaten. Andriy Rouzov, porte-parole de l'Agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine, poussant Bamako à rompre ses relations diplomatiques avec Kiev. Le Sahel peut-il devenir le théâtre d'une guerre par procuration entre la Russie et l'Ukraine? Élément de réponse dans le reportage de notre correspondant au Sénégal, Wahani Johnson Sambou, et l'analyse de Mohamed Abdelhaï El Khalil, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel, facilitateur pour la prévention et la gestion des conflits. Nous parlerons ensuite du Soudan où la guerre entre l'armée et les paramilitaires, exacerbée par des inondations, a déplacé des millions de personnes, aggravant une crise humanitaire déjà critique. Le fait marquant de la semaine, c'est le sommet Chine-Afrique qui se déroule cette semaine à Beijing, sommet auquel participent plusieurs dirigeants africains. Nous vous amènerons enfin à la découverte d'Idé Oumarou Jabirou, un jeune Nigérien de 24 ans, amputé du bras gauche, qui prend part aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont récemment demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre les mesures appropriées contre l'Ukraine qu'ils accusent de soutenir des groupes armés rebelles et les terroristes dans le nord du Mali. Mi-août, Bamako et Niamey ont rompu leurs relations diplomatiques avec Kiev après que l'ambassadeur ukrainien à Dakar a partagé les propos d'un responsable du renseignement ukrainien affirmant que son pays avait fournit des informations aux séparatistes Touareg du nord du Mali. Une situation qui ne passe pas inaperçue à Dakar, comme on va le voir dans ce reportage de Wahani Johnson Sambou. Wahani Johnson Sambou, que nous allons retrouver à Dakar avant le reportage, son reportage. Wahani Johnson, salut.
Salut.
Alors, Wahani Johnson Sambou, on va regarder dans quelques instants votre reportage. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette situation? Comment est-ce que ça a été vécu là-bas? Il y a dans votre reportage, vous parlez d'une mobilisation du front pour le départ des armées françaises au Sénégal. Alors, parlez-nous un peu de ce groupe. Qu'est-ce qu'il représente véritablement? Est-ce qu'on peut dire que son combat contre l'importation du conflit russo-ukrainien en Afrique est suivi là-bas?
Alors, on ne peut pas véritablement mesurer la portée de ce groupe puisqu'il vient d'être porté sur les fonts baptismaux il n'y a pas très longtemps, il y a juste quelques semaines. Et le groupe qui a marqué sa première action avec cette manifestation prévue devant l'ambassade de l'Ukraine à Dakar. Le combat a été suivi puisque d'autres groupes d'activistes les ont rejoints pour exiger non seulement le départ de l'ambassadeur, mais également faire savoir aux puissances occidentales qu'il est hors de question que l'Afrique serve de retrait et ou bien de terrain pour la transposition du conflit actuellement en cours entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu sur ce groupe qui se dit en tout cas déterminé à mener ce combat pour exiger non seulement le départ des bases militaires françaises au Sénégal, mais également diminuer largement l'influence occidentale dans la région du Sahel.
Oui, alors Wahani, Quelle est la position des autorités sénégalaises par rapport à cette crise entre le Mali et maintenant le Niger et les Ukrainiens? Et globalement, quelle est la position du Sénégal dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine?
Alors, le Sénégal affiche une position de neutralité, contrairement à ce qui se passe avec les autres pays de la sous-région, de la région du Sahel. Comme vous le savez, le Sénégal n'a jamais rompu ses relations diplomatiques, que ce soit avec la France, les États-Unis ou la Russie et l'Ukraine. Donc, il y a cette position de vouloir faire des efforts pour rester à équidistance de ce qui se passe là, mais... Les nouvelles autorités ont montré leur soutien à Bamako pour leur dire, écoutez, comme le Premier ministre Ousmane Sonko l'a indiqué lors de son voyage à Bamako, de dire, mais écoutez, nous n'accepterons pas qu'une autre force passe par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. C'est-à-dire, et récemment, après que l'ambassadeur de l'Ukraine a publié un message de soutien aux actions de l'Ukraine sur ce pays. Donc, ils ont pu indiquer que, voilà, nous sommes contre, et pour marquer un peu cette position de neutralité, mais également apporter ce soutien au Mali qui est considéré ici comme un peuple voisin.
Merci beaucoup, Wahani Johnson Sambou. Vous êtes le correspondant de VOA Afrique à Dakar. Vous avez donc réalisé un reportage là-bas, dans la capitale sénégalaise, pour nous parler du conflit russo-ukrainien qui s'est déporté, qui a des répercussions là-bas au Sahel et qui s'est notamment traduit par les dénonciations des gouvernements maliens et nigériens qui ont d'ailleurs rompu leurs relations diplomatiques avec Kiev. Alors, on va probablement, Wahani Johnson Sambou, regarder votre reportage qui n'est pas encore prêt. Alors, avant de regarder le reportage de Wahani, retrouvons Mohamed Abdelahi El Khalil, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel, facilitateur pour la prévention et la gestion des conflits. Bonsoir Mohamed.
Oui, bonsoir monsieur.
Voilà, nous sommes très contents de vous avoir. Vous êtes au Mali, à Bamako. Alors, avant de parler de l'Ukraine, pouvez-vous nous expliquer la présence des combattants russes au Mali? Est-ce que ces combattants-là, ils sont dans le cadre d'une coopération officielle entre les gouvernements maliens et russes? Ou alors, est-ce qu'ils y sont comme des mercenaires?
Alors, je vous remercie d'abord pour l'opportunité par rapport à cette thématique. Le Mali est un pays souverain et le Mali est libre de tisser des relations avec qui il veut. Et ce que les gens oublient, la relation entre le Mali et la Russie ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1962, il y avait des accords militaires entre le Mali et la Russie, et le RSF de l'époque, et à travers Gorbatchev et Mourinho Keïta. Si aujourd'hui le Mali essaie encore de relancer cette relation avec les autorités russes pour avoir des militaires russes sur le sol africain, sur le sol malien, c'est tout à fait légitime afin de se défendre, parce que vous savez tous que cette question de lutte contre le terrorisme est un combat collectif. Et donc, si aujourd'hui, et au début, certains disaient que le Mali avait des mercenaires sur son sol, mais nous ne voyons pas avec ce regard. Nous, le regard que nous avons nos partenaires russes qui sont sur le sol malien, dans le cadre d'une relation militaire entre le Mali et la Russie, pour vraiment aider le Mali à combattre le terrorisme et les narcotrafiquants.
Alors, Mohamed, l'Ukraine a donc aidé les rebelles du nord du Mali lors des combats de Tinzawaten, selon un responsable du renseignement ukrainien. Comment expliquer, selon vous, l'implication de l'Ukraine dans ce conflit?
Alors, tout d'abord, moi, je condamne vigoureusement cette réaction de l'Ukraine pour vraiment soutenir les rebelles du groupe, les rebelles de Mazawad, les rebelles de Meneda, les rebelles de la MA, de la SEMA, pour vraiment lutter contre, combattre l'armée nationale et l'armée souveraine. C'est tout à fait condamnable. Et nous, ce que nous avons voulu, c'est que le Conseil de sécurité des Nations de l'Union africaine, d'abord, soit le premier à monter sur le créneau en condamnant vraiment cette participation de l'Ukraine, que ce soit de façon active ou de façon proche de loin, pour vraiment venir déstabiliser une région de l'Afrique. Mais aujourd'hui, si nous regardons quelques faits qui se sont déroulés depuis l'année passée et les mois à venir, nous comprendrons un peu cette réaction de l'Ukraine, mais vraiment qui est une réaction gauche, qui est condamnable. Tout d'abord, nous remarquons la présence des forces ukrainiennes d'abord au Soudan, où elle coopère avec l'armée, du conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide, les FSR. Je ne sais pas si vous avez cette information. Et encore, ce qu'on a fait, c'est-à-dire c'est l'aspect l'inclusion où, à un moment donné, certains pays avaient accusé la Russie d'avoir fait une inclusion sur son territoire à travers l'armée malienne, ce qui n'était pas du tout vrai. Et troisième point, aujourd'hui, nous voyons cette franche collaboration entre la Russie et les pays de l'AS. Et donc, tout cela entraînera l'Ukraine vraiment à avoir une position et essayer de se venger à la Russie par rapport à cette question. Mais ce que le Sénégal et certains pays n'ont pas compris, ou ont compris, mais ils sont en train de faire le double jeu, c'est de savoir que la stabilité des relations entre les pays africains semble peu probable dans un avenir très proche. Ce que les gens ne comprennent pas, la stabilité du Mali, la déstabilisation du Mali, que ce soit par l'Ukraine ou autre puissance, ne pourra être qu'une source déclencheur de l'envahissement des pays ouest-africains par les groupes trafiquants, par les groupes terroristes.
Justement, Mohamed, j'allais vous demander quelles pourraient être les conséquences. Est-ce qu'il faut craindre une extension de ce conflit dans le Sahel?
Le conflit, les terroristes, les groupes trafiquants, que ce soit le Jnim, que ce soit le GIS, que ce soit autre, que ce soit la Katiba de Machina, tous ces groupes aujourd'hui sont en train de naviguer. Toutes les réalités nous prouvent, les analyses du terrain nous prouvent que ces groupes-là sont en train de naviguer vers les pays côtiers et les pays de l'Afrique de l'Est, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun. Donc aujourd'hui, le fait d'aider l'Ukraine ou une autre puissance étrangère avec la main cachée pour vraiment créer le chaos au nord du Mali, cela ne peut qu'être une source déclencheur qui donnera une force rapide à ce groupe terroriste-là vraiment d'envahir toutes ces raisons. C'est pourquoi moi j'appelle à travers ce micro tous les ressorts des pays africains, de l'Ouest et également des pays côtiers, vraiment à faire un front commun avec le Mali pour vraiment condamner l'Ukraine et dire que ce soit une dernière fois qu'on ne doit plus permettre que ce soit l'Ukraine ou l'OTAN ou autre puissance vraiment de jouer les jouets des groupes des narcotrafiquants et des terroristes. Parce que cela ne peut être que le président ne peut être qu'un chaos dans cette région du monde. Parce qu'aujourd'hui, la stabilité du monde dépend de la stabilité du Sahel et celle du Mali.
Mm-hmm. Alors, début août, le Mali et le Niger ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Par ailleurs, il faut dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont appelé, comme vous venez de le dire, le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures contre l'Ukraine. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ces développements sur cette guerre par procuration entre la Russie et l'Ukraine dans la région?
Bon, moi, je ne dirais pas une guerre par procuration entre la Russie et l'Ukraine, mais je dirais juste un cinéma ou un théâtre de sabotage, c'est-à-dire des processus de paix voulus par l'Union africaine, par les nations, par l'ONU, pour stabiliser toutes ces régions du monde, c'est-à-dire ces régions du Sahel, pour vraiment avoir une paix stable au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Mais aujourd'hui, des puissances qui sont derrière l'Ukraine pour vraiment semer le chaos dans cette région du monde sont en train de saboter. C'est-à-dire toutes ces initiatives qui ont été proposées depuis les années 2004 jusqu'à aujourd'hui pour avoir une paix et une stabilité au Mali. Aujourd'hui, le Mali a une armée vraiment qui essaie de se défendre, qui se défend, qui essaie de défendre, comme on appelle, l'aspect territorial, c'est-à-dire sa souveraineté territoriale. Mais la question, parmi les conséquences, nous verrons quoi? Nous verrons la déstabilisation de toutes les régions de l'Afrique, c'est-à-dire que ce ne sera plus le Sahel, mais ce sera aussi le Ouest africain.
Des risques de déstabilisation de la région. Merci beaucoup, Mohamed Abdelahil. Vous êtes El Khalil, vous êtes spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Alors, je le disais, cette actualité fait réagir évidemment au Sénégal. On va voir tout de suite le reportage de notre correspondant, Wahni Johnson Sambou, depuis Dakar, la capitale sénégalaise.
Sur ces images amateurs publiées sur les réseaux sociaux, un groupe d'activistes se dirige vers l'ambassade de l'Ukraine à Dakar. Membres du front pour le départ des armées françaises au Sénégal, ils ont bravé la pluie pour dénoncer le soutien de l'Ukraine au groupe dissident au Mali et demandent le départ de l'ambassadeur. Nous les avons retrouvés quelques jours plus tard lors d'une session de formation sur leur stratégie de communication. Et dans les discussions, l'Ukraine revient sans cesse. Pour ces activistes, pas question que le Sahel devienne le théâtre d'une guerre par procuration entre la Russie et l'Ukraine, soutenue par les puissances occidentales.
L'Ukraine n'a ni les moyens financiers, ni les moyens logistiques pour fournir des renseignements aux groupes terroristes. Nous estimons qu'il y a des puissances occidentales qui sont derrière l'Ukraine et nous estimons que l'Ukraine sert juste de couverture. Ce que nous disons en premier, c'est que aucun conflit étranger à l'Afrique ne doit s'importer ici en Afrique. Les Russes et les Ukrainiens n'ont qu'à gérer leur conflit, c'est leur souci, c'est pas notre souci.
Et cette posture des activistes démontre que la tournure prise par la question sécuritaire dans le Sahel avec le Mali accusant l'Ukraine de soutenir les séparatistes Touareg change complètement la donne. Ce qui fait craindre une détérioration de la situation sécuritaire dans une région déjà fragilisée par la présence de multiples groupes armés. Des craintes justifiées selon le docteur Momodou Bodian, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel.
Oui, il y a des craintes qui pèsent sur le Sahel puisque si évidemment... les services secrets ukrainiens ont fourni des informations au groupe armé non étatique qui ont fait essuyer à l'armée malienne et au groupe Wagner un échec. Cela veut dire qu'on est encore dans une sorte de guerre par procuration où les grandes puissances sont en train de s'inviter sur notre territoire qui est déjà fragilisé par des guerres intestines. Et cela suppose aussi que les groupes armés non étatiques vont davantage bénéficier de ce soutien-là et continuer à poser une menace à ces États qui sont déjà dans une situation de fragilité.
Il y a quelques jours, le représentant du Mali a exprimé devant l'ONU le risque de déstabilisation que constitueraient les armes fournies à l'Ukraine qui, d'après lui, viennent alimenter le terrorisme et la criminalité dans la région. De son côté, Kiev juge précipité les décisions de Bamako et Niamey de couper les ponts, rejetant les accusations d'ingérence du Mali. Wahani Johnson Sambou, VOA Afrique. Dakar.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Rendons-nous maintenant au Soudan. La secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, s'est rendue à Port-Soudan pour rencontrer de hauts responsables soudanais en vue d'intensifier les efforts humanitaires dans ce pays ravagé par un conflit entre l'armée et les paramilitaires des FSR, forces de soutien rapide. La guerre, exacerbée par des inondations, a déplacé des milliers de personnes, aggravant une crise humanitaire déjà critique. Le point avec Alexandrine Holognon.
Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe de l'ONU, appelle la communauté internationale à agir de toute urgence face à la crise humanitaire au Soudan, où la famine et les souffrances des populations exigent une réponse immédiate et un soutien massif.
Pour amener la communauté internationale pour qu'elle prenne conscience de la crise ici au Soudan, c'est une crise immense. De nombreuses personnes souffrent, ce qui nécessite un soutien considérable pour que les engagements pris envers la cause humanitaire soient tenus et ils doivent l'être de manière urgente. Nous faisons face à une crise imminente de famine. Nous ne recevons pas de fournitures médicales. Il y a des crises sanitaires, mais plus important encore, nous devons nous rappeler de la souffrance des gens.
There are health crises, but more importantly, we have to remember the suffering of the people.
La vice-secrétaire générale de l'ONU a également visité le poste frontière d'Adré dans l'est du Tchad, où elle a assisté au passage d'un convoi d'aide humanitaire. Dans ce contexte de guerre, la population soudanaise fait face à des catastrophes naturelles. Des inondations frappent le nord et l'est du pays, aggravant le sort des milliers de déplacés déjà affectés par le conflit. Oumaïman Zakaria Adam, une Soudanaise ayant tout perdu, raconte comment des pluies torrentielles ont transformé sa vie en cauchemar, détruisant sa maison et la laissant sans abri dans la rue.
Nous avons eu de fortes pluies qui se sont transformées en inondations. Toutes nos maisons se sont effondrées. La mienne a été totalement détruite. Nous sommes assis dans la rue et nous n'avons nulle part où aller.
Parallèlement, des Soudanais comme le professeur Dia Elden Awad et le citoyen Mouraned Ibrahim expriment à la fois l'espoir d'une paix durable et la fin de leur souffrance suite aux discussions sur un cessez-le-feu lancé par les États-Unis à Genève avec le soutien de l'Arabie Saoudite et de la Suisse.
En fin de compte, ce qu'il faut, c'est la paix. La fin de la guerre, le retour des citoyens dans leur foyer et la reconstruction de ce qui a été détruit pendant la guerre au Soudan.
Nous espérons que les négociations aboutiront à un résultat positif et qu'elles permettront d'alléger les souffrances du peuple soudanais, car nous avons récemment subi le déplacement et l'asile, ce qui ne nous convient pas.
Ces discussions de paix n'ont pas réussi à instaurer un cessez-le-feu. Le général Al-Burhan, chef de l'armée et dirigeant de facto du Soudan, continue de rejeter toute négociation.
Nous ne portons pas atteinte aux droits du peuple soudanais tant que cette milice n'aura pas été détruite et que nous n'aurons pas libéré chaque centimètre qu'elle a profané, cette guerre ne s'arrêtera pas.
Bien que les discussions aient pris fin sans accord de cessez-le-feu, elles ont abouti à l'engagement des belligérants de permettre un accès sûr et sans entrave aux humanitaires sur deux routes clés. Les efforts pour trouver une solution à cette crise multifactorielle se poursuivent, mais la population soudanaise continue de souffrir avec peu d'espoir de répit à court terme.
À présent, le fait marquant de la semaine, la Chine accueille des dirigeants africains depuis hier et jusqu'à vendredi dans le cadre d'un sommet visant à approfondir les liens avec le continent où les financements de Pékin ont permis la construction de nombreuses infrastructures. Le point avec Nathalie Barche.
La Chine a envoyé ces deux dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique pour y construire d'importantes infrastructures. Lors d'une conférence ministérielle avant le forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a déclaré que son pays travaille au développement des pays du Sud.
Nous travaillerons ensemble pour promouvoir la modernisation et construire conjointement une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun. Cela est conforme aux exigences inévitables du progrès historique et reflète les aspirations communes des peuples chinois et africains.
Les prêts de la Chine ont permis de financer des voies ferrées, ports et routes, non sans susciter des inquiétudes quant au surendettement de certains pays. Pour la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Yacine Fall, cette rencontre avec le géant asiatique est aussi une occasion de réparer les injustices faites à l'Afrique.
Au sujet de la nécessaire réforme de la gouvernance mondiale, nous saluons le soutien précoce et déterminant de la Chine à l'adhésion de l'Union africaine au G20. Dans cette dynamique, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies demeure une priorité afin de réparer l'injustice historique faite à l'Afrique.
Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu lundi avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. La Chine vise l'exploitation du cuivre, de l'or et du lithium en RDC. Xi Jinping a également rencontré les présidents kényans William Ruto et sud-africain Cyril Ramaphosa. Lors d'une conférence de presse, le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Yuxi, a déclaré que Pékin continuera à renforcer activement la coopération avec les pays africains.
Nous ne devons pas revenir à l'ancienne époque de l'exploitation coloniale et des affrontements de la guerre froide. L'Afrique ne peut pas devenir une arène de compétition entre grandes puissances. Toutes les parties doivent écouter la voix de l'Afrique, garder un esprit ouvert et travailler ensemble pour l'Afrique à renforcer ses efforts de paix et de développement.
La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Selon les médias officiels chinois, le commerce bilatéral a atteint près de 168 milliards de dollars au premier semestre 2024.
Et maintenant, la note positive de cette édition, on va parler de Umaru Jabiru, 24 ans. Il est un exemple de courage et de résilience. Ce jeune Nigérien dit toujours avoir rêvé de participer aux Jeux paralympiques et c'est le cas, Paris 2024. Son bras gauche amputé n'a pas été un obstacle. Le reporter de VOA Afrique, Bourema Balima, nous raconte l'histoire de ce jeune athlète depuis Niamey au Niger. Le récit est de Thierry Kaori.
Ide Umaru Jabiru a grandi en imitant d'autres athlètes d'arts martiaux, mais n'a jamais imaginé pratiquer les arts martiaux comme la plupart des jeunes de son âge. Il croyait toutefois dans son fort intérieur qu'un jour il se ferait son propre chemin vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont se dérouler du 28 août au 8 septembre.
Quand j'étais petit, moi, c'est le foot qui me plaît beaucoup. Parce que ma première compétition à l'extérieur, c'était en Turquie. lorsque j'étais en Turquie, les gens pensaient que je suis parti faire le foot. Mais malheureusement, c'est le taekwondo qui a pris tout.
L'oncle de sa mère, Mamadou Soulé, que Djabilou appelle son grand-père, dit qu'il a vu quelque chose de spécial en lui.
Mis à compétition des parents taekwondo. Donc moi, je l'ai appelé comme c'est mon petit neveu. Donc c'est pour cela que je l'ai appelé et pour l'amener au taekwondo.
Djabilou est premier athlète paralympique du Niger à concourir en taekwondo. Il attribue son succès à son grand-père qui était son premier entraîneur. Il appelle Papa Cho en référence à l'entraîneur olympique du Niger, le grand maître Yong Kun Cho.
Les personnes qui m'ont aidé pour arriver à ce niveau sont nombreuses. Mais je vais citer le premier personne qui m'a... C'est Maître Cho.
Son père, Ide Umaru, dit que la discipline de son fils est remarquable.
Djabilou avait 8 ans quand il a eu un accident et sa main a été amputée. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a rejoint le club de Maître Tidjani, le frère de sa grand-mère maternelle. Dès qu'il est entré dans la discipline, nous avons remarqué qu'il était vraiment motivé et par la grâce de Dieu, il est arrivé à ce stade. Je n'ai pas pensé qu'il pourrait atteindre ce niveau. Depuis son départ, nous recevons régulièrement ses appels. Maintenant, nous lui souhaitons bonne chance. Nous prions pour lui tous les jours.
Son entraîneur, Abdourahmane Issaka Yaou, dit qu'il s'est qualifié dans la catégorie K44 des hommes de 70 kilos, qui comprend les athlètes avec une amputation unilatérale du bras ou une perte de fonction équivalente ou une perte des orteils.
C'était contre le Malien, où il avait gagné par KO. Il a mis le Malien KO, où il a porté la victoire par un score de 12 à 24.
Djabilou dit qu'il n'a pas pu contenir son excitation au moment où il a réalisé qu'il pouvait porter son rêve sur la scène mondiale.
Moi, mon objectif, ce n'est pas de participer pour participer. C'est de participer pour faire retentir notre hymne national et l'hymne national du Niger. Je vais me donner un coup pour pouvoir amener cette médaille paralympique.
En tout cas, sa mère, Rakia Lawali, a confiance et prie pour que son fils gagne. La participation de Djabilou aux Jeux paralympiques de Paris 2024 sera suivie de près par tous ses fans. En tant que jeune Nigérien handicapé qui s'engage dans le sport de haut niveau, sa réussite restera une source de fierté pour son pays.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Voilà, alors qu'on s'achemine vers la fin de cette édition, nous remercions tous les internautes qui ont réagi sur le sujet central du jour. Dramane Koné qui dit « Dans le nord du Mali, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des terroristes. Le Mali va recouvrer l'intégralité de son territoire. » Jean-Baptiste Sondo qui dit « L'Ukraine n'est pas mêlée à cette guerre, elle n'a pas d'effectifs pour mener cette guerre au Mali. » Nouhoum Madi Kamara qui dit « L'Ukraine n'est qu'un bouc émissaire, on sait que les Américains et les Européens sont derrière ça. » Et puis Charles Bazema qui dit le Sahel est devenu un terrain d'une guerre froide entre les grandes puissances, malheureusement qui joue négativement sur nous, le peuple sahélien. Merci à tous ces internautes, merci à nos invités et nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches du Sahel. Merci à Joselle Morissant et Arzuma Compaoré qui ont permis la réalisation de cette émission. À ce micro, Mamadou Oumfa, je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.